à Washington.
Nagoma benyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022.
Il le dit en Kirundi, le président du Burundi promet de ne pas briguer d'autres mandats. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristi dans votre compagnie, ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en ce jeudi 7 juin 2018. L'actualité dominée par cette annonce surprise de Pierre Nkurunziza, mais l'opposition burundaise n'y croit pas.
Je ne pense pas que M. Nkurunziza pourra aller jusqu'en 2020. Il va plutôt organiser des élections anticipées.
Toutes les réactions à venir dans un instant. Également à la une, au Mozambique, Saint-Maur dans une nouvelle attaque attribuée aux islamistes dans le nord du pays. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives, tout à l'heure dans 10 minutes. Le Burundi, donc, pour commencer, le président du pays, Pierre Nkurunziza, a promis ce jeudi de ne pas briguer sa réélection à la fin de son mandat en 2020. La constitution burundaise a été modifiée le mois dernier par un référendum permettant en théorie à l'actuel chef de l'État de briguer deux nouveaux mandats consécutifs de 7 ans à partir de 2020 et par conséquent de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Lors d'une cérémonie, Pierre Nkurunziza a cependant assuré qu'il ne comptait pas se représenter. Je vous propose d'abord le compte-rendu de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
À Bugendana, dans la province de Gitega, au centre du Burundi, le président Pierre Nkurunziza a indiqué devant tous les Burundais qui s'engagent et se préparent avec tout son cœur, son intelligence et toutes ses forces à soutenir le nouveau président que les Burundais vont élire en 2020. Pierre Nkurunziza a également affirmé qu'il s'engage à continuer à servir le Burundi. C'est un bon plan de Dieu, un honneur qui échoit à Dieu l'Éternel, a précisé le président burundais. Il a profité de l'occasion pour remercier les présidents Feu Nelson Mandela, Julius Nyerere et d'autres présidents de la région qui ont contribué à la mise en place des accords de paix et de réconciliation signés à Arusha en 2000. Pour Pierre Nkurunziza, le parti présidentiel CNDD-FDD, c'est lui qui a accéléré la mise en application de ces accords. Par contre, il se demande pourquoi dans d'autres pays africains, il y a des révisions de la loi fondamentale sans faire beaucoup de bruit comme au Burundi. De nombreux politiciens restent sceptiques aussi longtemps que la nouvelle constitution est taillée sur mesure pour le parti présidentiel, tout en excluant les acquis des accords de paix d'Arusha. Tous les habitants de la capitale interrogés restaient calmement souriants à cette nouvelle qu'ils qualifient de bonne nouvelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Oui, venons-en aux réactions à présent avec d'emblée cette question. Est-ce que le président Pierre Nkurunziza a bien dit qu'il ne va pas se représenter aux prochaines élections de 2020? Idriss Fall a joint Jean-Claude Kariwa, porte-parole du président Burundi.
Il faut souligner que c'était un discours pour présenter la nouvelle constitution élue par le peuple burundais. Et au cours de ce discours, l'un des paragraphes saillants de son discours, c'est qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020 et qu'il a promis aussi de soutenir par tous les moyens le président qui sera élu en 2020.
Qu'est-ce qui a changé? Parce que la nouvelle constitution lui permet de se représenter pour 2 mandats de 7 ans à partir de 2020.
Oui, la constitution lui permet de se présenter, mais la constitution ne lui obligeait pas de se présenter en 2020. De toute façon, il a promis de continuer à servir le Burundi parce que pour servir son pays, on ne doit pas nécessairement être président de la République.
Donc c'est ça qui explique la récente nomination par le CNDD-FDD pour faire de lui un guide suprême éternel.
Non, je ne peux pas commenter les nominations ou les distinctions honorifiques octroyé par le parti CNDD-FDD, mais ce qui est évident, c'est que on reconnaît à lui un leader, un homme d'État, on reconnaît à lui un homme du Burundi, quelqu'un qui a une grandeur physique et morale, qui est en mesure de diriger, d'organiser des gens et de donner des conseils. Le parti le connaît depuis le maquis et le parti a pris tout son temps pour lui décerner ses fonctions.
Est-ce qu'on peut dire que cette journée est une journée historique pour le Burundi?
Ah oui, c'est un jour où le peuple burundais avait rendez-vous avec l'histoire. C'est une journée historique et même émotionnée pour certaines personnes.
C'est-à-dire
non, vous savez, si vous lisez ce que la presse écrivait ces derniers temps, comme quoi la nouvelle constitution vient pour prolonger le mandat du président de Bélé jusqu'en 2034, et les gens s'attendaient à ce qu'il soit candidat en 2020. Il y en a même qui l'ont voulu, il y a beaucoup de Burundais et qui aimeraient que le président reste président. Vous comprenez ce que je veux dire par émotion.
Jean-Claude Kariwa, porte-parole du président burundais. Pour l'opposition du pays, il reste à savoir désormais si le chef de l'État se conformera à sa promesse. En réaction à l'annonce de Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter en 2020, écoutons Léon Songeda Kumana, leader du FRODEBU, principal parti d'opposition au Burundi.
Pour le parti Sahara FRODEBU, la déclaration d'intention en soi est très bonne. C'est une bonne chose. Si l'engagement d'abord est pris et qu'il devait rester ferme, ça sera bénéfique pour lui-même, ça sera bénéfique pour le parti dont il est issu, ça sera bénéfique pour notre pays, ça peut être utile aussi en exemple dans la région des Grands Lacs, ça peut être aussi un modèle pour l'Afrique parce que en fait partout en Afrique, on se trouve dans notre logique de s'éterniser au pouvoir. Alors maintenant, en Afrique, on peut douter de tout. Est-ce que l'engagement sera respecté parce que nous avons vu un peu partout en Afrique des chefs d'État qui ont pris un engagement comme celui-là, mais qui, à la veille de la fin de mandat, qui ont annoncé que la population les réclame. Est-ce que vous nous disons ne sera pas tenté à part cette voie comme en 2014, comme en 2015, où il a dit que le parti et la population le réclamaient? Je dis, en résumé, que c'est une très bonne chose. La déclaration est rassurante, il faut qu'elle soit respectée.
Léonce Ngenda Kumana, leader du FRODEBU, principal parti d'opposition au Burundi. Autre réaction au sein de l'opposition en exil, Charles Njitidje du Sénared depuis Bruxelles.
Je n'y crois pas parce que M. Nkurunziza, avant 2015, il avait dit qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat et que la constitution et la Cour d'appel lui interdisaient. Mais après, il a dit qu'il ne va pas aller contre la volonté du peuple. Pour moi, je crois que c'est plutôt un repli tactique et stratégique. Il a des pressions, certes, provenant de la communauté internationale, provenant et même de l'intérieur de son camp. Il y en a qui sont contre, qui ne veulent pas qu'il soit sacré roi à vie. Et face à toutes ces pressions, je crois qu'il a choisi pour se donner le temps de réfléchir. Je crois que maintenant, la guerre va s'engager au sein du CNDD-FDD pour la succession. Et il va se rentrer dedans. Et entre-temps, M. Nkurunziza va se refaire du poil de la bête, comme on dit, et il va dire, bon voilà, sans moi, rien ne va, et les gens sont rentrés dedans, je suis l'homme de la situation, et il va se représenter à coup sûr. Deuxième chose, je ne pense pas que M. Nkurunziza pourra aller jusqu'en 2020. Je crois qu'il va plutôt organiser des élections anticipées, parce que les deux constitutions ne peuvent pas se cohabiter pendant presque près de 2 ans. Donc, encore une fois, en 2020, il ne va pas se représenter, il se sera représenté avant. C'est mon analyse et j'aimerais me tromper.
Charles Njitidje du Sénared, l'opposition burundaise en exil. Voilà donc pour ce dossier sur le Burundi, réalisé par Idriss Fall.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mozambique, 5 personnes ont été tuées hier soir à coups de machettes et de couteaux dans l'extrême nord-est du pays. L'attaque a été attribuée à des islamistes accusés d'avoir perpétré des attaques similaires ces dernières semaines dans cette région riche en gaz. Nathalie Barge.
L'attaque a eu lieu hier soir dans le village de Namalucho, à 100 km de Pemba, capitale provinciale du Cabo Delgado. Selon la police, les assaillants armés de couteaux et de machettes ont tué 5 personnes et ont détruit des maisons. Il s'agit de la 3e attaque depuis la fin mai dans cette province. Le 27 mai à l'aube, un groupe de musulmans radicaux, connu localement sous le nom d'Al-Shabaab, avait attaqué 2 petits villages et tué 10 habitants, dont des adolescents retrouvés décapités à la machette. Et dans la nuit de lundi à mardi, cette semaine, 7 civils ont été massacrés et plus de 100 maisons brûlées dans la même région.
En Jordanie, sous la pression de la rue, les autorités ont décidé de retirer un projet de loi sur l'impôt sur le revenu. Le point avec Marie Benson.
Le gouvernement jordanien a accepté de retirer le projet concernant l'impôt sur le revenu qui prévoyait une augmentation des impôts de 5 à 25%. De nombreux manifestants ont dénoncé cette réforme qui a causé une très forte augmentation des prix des produits de base. Le prix du pain, par exemple, a augmenté de 100%. La Jordanie connaît un fort taux de chômage et de pauvreté. Le pays s'était engagé à mener des réformes structurelles et à réduire ses déficits en échange d'un prêt de plusieurs centaines de millions de dollars du FMI. L'accueil de centaines de milliers de réfugiés syriens pèse également sur les finances publiques. La Jordanie, dépourvue de ressources naturelles, dépend largement de l'aide étrangère.
Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
En Angola, le nouvel aéroport de Luanda devrait être opérationnel d'ici à 2020. La construction est achevée à 60% et devrait être terminée à condition qu'aucune contrainte financière ne se présente durant cette période. Le coût de construction, route d'accès incluse, et les frais d'exploitation ont déjà franchi 6 milliards de dollars. La capacité devrait permettre de gérer plus d'une dizaine de millions de passagers par an. Les travaux ont commencé en 2004 et sont financés par la Chine. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud s'est contracté de 2,2% au premier trimestre 2018. D'après l'Agence nationale des statistiques, il s'agit de sa plus grave contraction depuis plus de 9 ans. Les mauvaises performances du secteur agricole, qui a enregistré une baisse de 24%, sont à l'origine de cette situation. Les États-Unis ont trouvé un accord avec le groupe de télécom chinois ZTE pour reprendre normalement ses activités et accéder aux technologies américaines. D'après le secrétaire américain au commerce, ZTE doit s'acquitter d'une amende de 1 milliard de dollars et 400 millions de dollars supplémentaires devront être placés sous séquestre et seront utilisés en cas de nouvelle violation de l'accord.
Et maintenant, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Il ne reste plus qu'une phase retour pour savoir qui sera au Ghana pour la CAN féminine.
Les matchs allés du deuxième et dernier tour des éliminatoires de Ghana 2018 sont terminés. En s'imposant à l'extérieur, l'Afrique du Sud 1-0 au Lesotho. Même score pour le Nigeria en Gambie. Le Zimbabwe également s'est imposé en Zambie 1-0. Et surtout le Cameroun 5-0 au Congo ont pris une option sur la qualification pour la phase finale. Avantage aussi pour l'Algérie qui a disposé 3-1 de l'Éthiopie. Tout reste à faire en revanche entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui se sont neutralisés à Abidjan 2-2. Les matchs retour se joueront ce week-end. La compétition, elle, aura lieu du 17 novembre au 1er décembre 2018 au Ghana.
Le Ghana ou la Fédération de football est prête à sévir suite au scandale de corruption.
La Ghana Football Association se dit prête à prendre des mesures immédiates après les révélations explosives d'une enquête journalistique mettant en cause ses dirigeants et des arbitres. Un documentaire a piégé notamment le président de la fédération Kwesi Nyantaki, proposant à des journalistes déguisés en investisseurs financiers de leur faciliter l'accès à des personnalités du gouvernement pour obtenir d'importants contrats en échange de plusieurs millions de dollars. Fin mai, une enquête à son encontre a été ouverte suite à une plainte du président Nana Akufo-Addo, accusant Kwesi Nyantaki d'avoir utilisé frauduleusement le nom et le bureau du président pour des affaires personnelles. Il a été interrogé et relâché en attendant la poursuite de l'enquête.
En Europe, Eric Abidal a été nommé directeur sportif du FC Barcelone.
Et oui, l'ancien international français et ex-joueur du FC Barcelone, 38 ans, a été nommé directeur sportif du club Blaugrana à la place de Robert Fernandez, d'après un communiqué du club catalan. Abidal, resté une icône à Barcelone après son combat contre un cancer du foie, diagnostiqué en 2011, occupait depuis juin 2017 un poste d'ambassadeur du club où il a évolué de 2007 à 2013.
Et puis tennis, Del Potro a rejoint Nadal en demi-finale de Roland-Garros.
L'Argentin, sixième mondial, a écarté le Croate Marin Cilic en quart de finale. Juan Martin Del Potro, 29 ans, atteint ainsi le dernier carré pour la deuxième fois, 9 ans après la première. L'attend maintenant le défi ultime sur terre battue face à Rafael Nadal. Chez les dames, ce sera la troisième finale pour Simona Halep, numéro 1 mondial et finaliste sortante. La Roumaine s'est qualifiée en surclassant l'Espagnol Garbin Muguruza. Simona Halep affrontera en finale une des Américaines opposées dans la seconde demi-finale, Sloane Stephens ou Madison Keys.
Merci Yacouba. Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Tchad, le personnel judiciaire a décidé de reconduire la grève sèche dans toutes les juridictions du pays pour 7 jours, à compter d'hier, mercredi 6 juin. Il persiste dans ce débrayage pour dénoncer l'ingérence de celui qu'on peut appeler ex-gouverneur de la région du Logone oriental et les autorités militaires de Doba dans les affaires judiciaires. Le personnel judiciaire accuse l'ex-gouverneur Adam Nouki Charfadine d'intimer l'ordre aux gendarmes de tirer à balle réelle sur un avocat qui a obtenu la libération de 3 de ses clients le 22 mai dernier dans cette région du sud du pays. De N'Djamena, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
La grève des magistrats et auxiliaires de justice paralyse l'appareil judiciaire depuis une semaine. Et pour calmer les esprits, le président Déby a limogé ce jour 6 juin 2018 Adam Nouki Charfadine de ses fonctions de gouverneur du Logone oriental. Ce limogeage fait suite à une mission de 3 inspecteurs de services judiciaires diligentés à Doba par le ministère de la Justice. Après enquête sur le terrain, la mission recommande la poursuite judiciaire de l'ex-gouverneur pour rébellion et arrestation arbitraire et de 3 responsables de la gendarmerie du Logone oriental pour extorsion de fonds et recel de malfaiteurs. Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Midaï Guirimbaï, la République du Tchad est en danger à cause du comportement de ceux qui sont censés protéger les paisibles citoyens.
Ce n'est pas imaginable qu'une autorité à la dimension du gouverneur puisse s'offrir le luxe de faire ouvrir le feu sur des gens, tous ceux qui sont soupçonnés. Ils doivent être traduits devant le juge. Dans ces conditions, nous aurons compris que le président de la République et tous ceux qui gravitent autour de lui ont à cœur l'idée de donner du Tchad l'image d'un pays qui a une justice.
Le syndicat des magistrats du Tchad durcit sa position. Pour le secrétaire général du dit syndicat Djonga Arafi, il faut respecter la décision de la justice rendue au nom du peuple tchadien.
Une force parallèle ne peut pas entrer au sein de la justice et procéder à des tirs. Autrement dit, la décision peut s'obtenir au bord d'un canon. La loi nous dit que s'il y a 99% des preuves réunies et qu'il subsiste 1% de doute là, il faut relaxer. Et nous prêtons serment, disons, sont esclaves de la loi. C'est une bavure qui a été donc commise. Des actions judiciaires doivent être engagées contre eux. C'est à ces conditions-là seulement que nous allons reprendre le chemin du travail.
Le secrétaire de l'Ordre des avocats du Tchad, Djimadoum Kamtok, estime que l'acte du chef de l'État relevant le gouverneur de Doba de son poste est un début de solution à leurs revendications. Mais il appartient à la base de décider de la levée de la grève.
L'Assemblée générale a décidé souverainement de reconduire le mouvement pour 7 jours. Nous attendons dans l'intervalle que les autorités militaires impliquées soient aussi démises de leurs fonctions. Si cela est fait, il appartiendra donc à cette assemblée de décider de lever le mot d'ordre de grève avant la date du 13 juin.
Selon des sources judiciaires, Adam Nouki Charfadine traîne un passé judiciaire assez tumultueux. Outre ses ennuis judiciaires, il avait été démis de ses fonctions du gouverneur de la région du Bata au centre du pays par le chef de l'État en 2016 pour avoir tenté d'engager un bras de fer avec les magistrats. André Kodmadigar Ndiamé. Maintenant, VOA Afrique.
Ce soir, dans À votre avis, gros plan sur le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne va pas se représenter en 2020. Cette déclaration intervient juste après la promulgation d'une nouvelle constitution qui lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Qu'en pensez-vous? Morgane Diriek en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons. À ce soir.
cap sur la République démocratique du Congo, le parc national des Virunga a décidé de prolonger sa fermeture pour cause d'insécurité. Ce parc naturel, situé dans l'est du pays, restera ainsi interdit aux touristes jusqu'en 2019. La plus ancienne aire protégée d'Afrique devait initialement rouvrir le 4 juin après une succession d'incidents meurtriers, mais la mort d'un ranger et l'enlèvement de deux touristes britanniques et de leur chauffeur congolais par un groupe armé le 11 mai dernier a changé la donne. La société civile dans la région appelle le gouvernement à accompagner les responsables du parc pour la sécurité des visiteurs, tandis que l'Institut congolais de la conservation de la nature annonce la mise en place prochaine de nouvelles mesures de sécurité avant la réouverture dans moins de 6 mois. De Goma, le reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
Cette suspension intervient alors que les secteurs commençaient à inspirer la confiance des visiteurs étrangers. Depuis la relance des activités touristiques, plus de 17 000 touristes ont visité les volcans Nyiragongo et les gorilles des montagnes du parc de Virunga. Joël Wengamulai, directeur de communication du parc de Virunga, explique.
Notre croissance était plutôt exponentielle, avec une croissance de plus de 25 ou 30% chaque année. Malheureusement, l'incident du mois de mai s'est produit et nous sommes au regret de maintenir l'activité suspendue. Nous espérons que ça va se faire dans les brefs délais, mais c'est un choix difficile que nous avons fait et nous l'assumons.
Pour faire face à la menace de la dizaine des groupes armés dans et autour de ces parcs, l'Institut congolais pour la conservation de la nature n'a pas hésité à former et à bien armer les rangers. Mais malgré cela, ils sont souvent la cible de nombreuses attaques et embuscades tendues par des braconniers et des membres des groupes armés.
L'équipement des éco-gardes dépend d'abord de la menace à laquelle ils doivent faire face. Il est clair et connu de tous que le Virunga fait face à des grands défis de sécurité en termes de groupes armés et c'est pourquoi les gardes doivent être équipés pour sécuriser les touristes lors de leur passage dans le parc.
La mesure pénalise non seulement les acteurs du secteur, mais aussi tous les opérateurs économiques qui bénéficient directement ou indirectement à la présence des touristes. Les propriétaires de voitures taxis et les vendeurs d'œuvres d'art subissent déjà les conséquences. La société civile de la province interpelle le gouvernement congolais et ses partenaires dans la sécurisation de cet espace pour favoriser le développement des communautés riveraines du parc. Étienne Kambale est rapporteur de la société civile au Nord.
C'est une perte pour la population du Nord Kivu et de la RDC en général. Nous aimerions que nos autorités travaillent d'arrache-pied avec la MONUSCO, avec tous les partenaires de la RDC. Pour nous, c'est une perte. Et pour les pays voisins, c'est une richesse. Le fait que nous avons l'insécurité chez nous, mais maintenant de l'autre côté, le Rwanda va gagner des dollars et l'Ouganda va gagner.
L'espace Virunga est partagé entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC avec presque les mêmes attractions touristiques. Cela pousse à la concurrence et la RDC doit s'investir pour la sécurisation de son espace du parc de Virunga. En attendant, les activités touristiques restent suspendues. Charles Kasereka, Goma, VOA Afrique.
Raïssa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur le Burkina Faso, tombé depuis 3 ans dans un cycle d'attaques terroristes et d'enlèvements dans le nord du pays. Pourquoi ce climat d'insécurité perdure? La stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement doit-elle évoluer? Une implication de la population est-elle possible alors qu'elle se sent de moins en moins protégée? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Les dirigeants des plus grandes démocraties industrialisées se rencontreront au Québec, au Canada, ce week-end, alors que le commerce et d'autres questions sont source de tensions entre Washington et ses alliés. Le sommet du G7 risque d'être éclipsé par une autre réunion historique la semaine prochaine à Singapour. Cependant, le sommet du G7 ne sera probablement pas moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership international des États-Unis. Un avant-goût du sommet avec Gaby Dorsil.
Oubliez les formes et les sourires. un gouffre grandissant se précise, alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada.
Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7, cela ne fait aucun doute.
Selon Jacob Kierkegaard, chercheur au Peterson Institute for International Economics, la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accru des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale.
Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces automobiles, c'est une recette, pas pour une guerre commerciale mondiale, mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde.
Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a défendu les actions de l'administration et a qualifié le désaccord de querelle familiale.
Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale, indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main-d'œuvre.
Mais certains économistes disent que le résultat de la politique « l'Amérique d'abord » sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada, hôte du sommet de cette année, lance la première salve. Bill Morneau est le ministre canadien des Finances.
Cela va causer des pertes d'emplois pour les Américains, des pertes d'emplois pour les Canadiens, et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue.
Les Canadiens et les Européens ont menacé de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine.
Le président Donald Trump a accueilli à dîner mercredi soir des dignitaires musulmans pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne du Ramadan. C'était la première fois qu'il organisait cette célébration depuis son arrivée à la Maison Blanche. Les précisions de Timothée de Nangmaï.
Le chef de l'exécutif américain a exprimé sa joie d'accueillir ses invités musulmans à la Maison Blanche. Il a souligné l'importance de l'iftar, dîner de rupture du jeûne pour cette communauté religieuse.
À chacun d'entre vous et à tous les musulmans du monde, Ramadan Mubarak. En nous réunissant ce soir, nous honorons une tradition sacrée de l'une des plus grandes religions du monde. Pour les fidèles musulmans, l'iftar marque la fin du jeûne quotidien et la réflexion spirituelle ayant lieu durant le mois saint du Ramadan.
Le président Trump n'avait pas organisé de dîner de rupture du jeûne du Ramadan l'année dernière, rompant ainsi avec une tradition respectée par plusieurs de ses prédécesseurs. Hier soir, il a exhorté ses hôtes à honorer l'esprit du Ramadan.
Ce soir, alors que nous savourons ce magnifique dîner à la Maison Blanche, efforçons-nous d'incarner la grâce et la bienveillance qui caractérisent la saison du Ramadan. Prions pour la paix et la justice et résolvons que ces valeurs nous guideront. Construisons un avenir brillant et prospère qui honore et rend gloire à Dieu.
Et pendant que le chef de l'exécutif américain échangeait avec ses hôtes, des manifestants s'étaient rassemblés en face de la Maison Blanche pour dénoncer les mauvais traitements infligés, selon eux, par le président Trump aux musulmans. Bilal Askayar était du nombre.
We're here protesting the White House iftar that was announced earlier over the weekend.
Nous sommes ici pour protester contre le dîner de l'iftar annoncé plus tôt ce week-end. C'est le comble de l'hypocrisie pour Donald Trump de bannir les musulmans d'un côté et d'inviter des hauts diplomates à la Maison Blanche pour la rupture du jeûne. C'est hypocrite et son action et ses propos contre les musulmans n'est pas américaine ni présidentielle.
Durant la campagne électorale de 2016, le président Trump avait appelé à l'interdiction complète de l'entrée des musulmans sur le territoire américain. Arrivé à la Maison Blanche, il avait pris divers décrets limitant l'immigration en provenance de quelques pays majoritairement musulmans.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneux. Merci à toute l'équipe. C'était Nashwan Kale, our good friend Nashwan Kale qui était à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
VOA Afrique.